du jazz.
D'hier et d'aujourd'hui.
Laurent Verdot.
Pascal Verdot.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Nous inaugurons aujourd'hui un cycle selon une formule qui va consister à mettre en regard les enregistrements de musiciens français avec leurs sources d'inspiration. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on passera deux morceaux. Premièrement, le titre qui les a attirés, qui leur a tiré l'oreille. Et deuxièmement, ce qu'ils en ont fait. Et ça commence en 1945, au sortir de la guerre, avec une jeunesse qui voit arriver en même temps les Américains libérateurs et la musique qu'ils apportent avec eux.
Et bien sûr, vous pensez que eux, les jeunes Français, n'avaient jamais entendu ça. C'était à la fois une merveilleuse musique et une grande libération dans tous les sens du terme. Alors ils vont chercher à écouter ces disques. Et puis après, ça leur a donné envie d'essayer de jouer cette musique. Seulement, c'est une musique qui ne s'écrit pas sur des papiers. C'est une musique qui se joue à l'oreille les trois quarts du temps. Mais ça les arrange, parce que tous ces jeunes, la musique à l'oreille, ça leur va très bien.
Oui, t'imagines une bande de jeunes enthousiastes, et puis au lieu de se mettre autour du tourne-disque, ils décident de jouer. Et là, ils n'ont pas fait de musique avant, ou très peu. Donc ils se distribuent les instruments selon leurs attirances. Et toi, tu seras la trompette, toi, le clarinette, etc. Puis, finissent par apprendre peu à peu à jouer des instruments correctement. Et, naturellement, comme les disques sont rares, il faut aller les écouter. Et c'est là que quelques collectionneurs, dont le fameux Henri Bernard, ouvrent leur discothèque, généralement une fois par semaine, porte ouverte. Et les jeunes futurs musiciens ou musiciens débutants viennent écouter les disques qui vont les mobiliser. Pour illustrer le propos, voici un orchestre d'amateurs qui joue un blues rapide. Et leur référence est tiré de la série culte enregistrée par Hugues Panassier peu avant la guerre, avec Tommy Lanier, Mesro. On appelle ça les Panassier Sessions. Et ils en ont tiré un morceau qui s'appelle « Coming in with the Common ». Là, on passe à la deuxième partie. Et juste après, vous entendrez ce que ces jeunes amateurs en ont fait sous le titre de « Old Time Blues ». J'insiste sur le fait qu'ils sont tous débutants et que le trompettiste a déjà quelque chose. Hein. Il s'appelle Ray Sicurel. D'ailleurs, nous l'avons rencontré beaucoup plus tard et nous a raconté cette époque avec beaucoup d'émotion.
Le deuxième binôme de morceaux, c'est Claude Luther. Ah, lui, peut-être vous en avez entendu parler. Il jouait dans les caves. Les caves, ça avait joué un grand rôle pendant la guerre, parce que c'était là qu'on s'y réfugiait quand il y avait des bombardements.
Ah oui, la sirène d'alerte vous faisait immédiatement descendre l'escalier en courant. Et c'est pour ça que dans notre génération, le bruit de la sirène des pompiers qu'on essaye tous les premiers mercredis du mois à midi, ça nous fait quelque chose de désagréable.
Ça nous stresse un peu quand même.
Ah ouais, ouais. Resté, ça.
Il va être connu dans tout le monde des jeunes et même quelquefois des moins jeunes. C'est un clarinettiste hors pair.
Et plus tard, il sera très célèbre, ainsi que son orchestre, pour être devenu les accompagnateurs attitrés de Sidney Bechet. Tous ces jeunes musiciens se ruent sur le Nouvelle-Orléans parce que c'est le style le plus accessible à la musique à l'oreille.
D'ailleurs, actuellement, vous dites à des gens « Ah, le jazz !» Quelquefois, ils vous disent « Oh, c'est trop un télo pour moi !» Mais si vous dites « Jazz Nouvelle-Orléans », « Ah oui, oui, ça j'aime !»
c'est resté, et sans doute d'ailleurs grâce à cette génération de jeunes pionniers qui s'est courageusement mise à l'ouvrage, parce qu'il faut quand même apprendre à jouer d'un instrument, il faut commencer à faire fonctionner son oreille en fonction des harmonies du morceau, enfin c'est pas facile tout ça. Hein.
D'autant moins facile que c'est pas du tout une habitude de la musique française. Quand vous vouliez être musicien à cette époque-là, à moins de faire de la musique traditionnelle qui était considérée comme une musique tout à fait mineure, vous preniez des leçons de classique, de piano, de violon, avec solfège obligatoire.
Le sacro-saint solfège. Et après, venez par là, mettez-vous au piano, et comme de petits marteaux. Tous ces jeunes, ils étaient beaucoup plus marteaux que les jeunes pianistes. Et vous allez donc entendre l'orchestre de Claude Luther à l'œuvre. Et nous entrons là dans les gens qui ont toujours eu le souci d'avoir dans leur orchestre un tandem de trompettes. Comme chez King Oliver, dont il s'inspirait beaucoup, c'est très important le tandem de trompettes, parce que ça va être récurrent. Et ce premier tandem s'appelle Pierre Merlin et Claude Rabanit. Ils sont restés légendaires. Le morceau dont ils se sont inspirés, Get Mouse, a été enregistré à l'occasion d'une session où tous les morceaux ont été composés par Louis Armstrong, en vue d'être enregistré par lui, et où il n'a pas pu venir, il a été remplacé. C'est une circonstance qui est restée connue, et donc son digne remplaçant, George Mitchell, a très bien tenu son rôle. Voici donc d'abord le Get Mouse de cet orchestre-là, et vous entendrez ensuite la version de Claude Luther.
Et de ses Lorientais. Thank you.
D'un Claude à l'autre, voici Claude Bolling, après Claude Luther. Ils ont d'ailleurs commencé ensemble, mais ils ont très vite eu des parcours divergents parce que autant Luther voulait conserver la pureté originelle du Nouvelle-Orléans et la cultiver, autant Bolling était attiré par des choses plus élaborées.
N'oubliez pas que Bolling est un pianiste et que Luther est un clarinettiste, et ça, ça compte. D'ailleurs, c'est logique. Le piano, c'est déjà un instrument très complet. Vous avez les accords, vous avez la mélodie, vous avez tout ça. Un clarinettiste, il joue une mélodie pure. Et un pianiste, il est souvent tenté, quand il a les moyens de le faire, d'avoir un orchestre de plus en plus important pour finir, peut-être, parfois, en grand orchestre. Et bien, c'est ce qu'a fait Claude Bolling.
On pourrait dire que, comme Duke Ellington, qui était son modèle, plus loin que le piano, son instrument, c'est aussi son orchestre. Et, naturellement, sous la forme d'un big band. Nous allons donc vous passer un morceau de Duke Ellington qui s'appelle
Harlem Airshaft.
Et ensuite, la version par le grand orchestre de Claude Bolling avec un remarquable trompettiste qui s'appelle Michel Delacquian. Qu'est-ce que c'est Harlem Airshaft ?
On en a parlé la semaine dernière, c'est la cour intérieure des immeubles. Vous savez, souvent les immeubles étaient avec une cour intérieure qui permettait presque de se parler d'une façade à l'autre. C'était une vraie vie, un peu comme un petit village, vous voyez.
Ce sont des courettes, en fait. Airshaft, ça désigne aussi le fait que ça ventile un petit peu l'atmosphère. Ellington racontait que c'est tout ce qu'on peut entendre par cette espèce de haut-parleur que constitue une courette, tout ce qu'on peut entendre à Harlem dans n'importe quelle courette sur laquelle vos fenêtres de cuisine donnent. Thank you. Tu sais que cette espèce de mobilisation des jeunes vers la musique active, tiens, tu feras ci, tu feras ça, tu feras trompette, etc. Ça s'est perpétué au-delà des années 50, dans au moins un milieu tout à fait cohérent, c'était
les beaux-arts. Alors les beaux-arts, théoriquement, les architectes, les peintres sont des artistes.
Et les sculpteurs, madame ?
Ah oui, oui, que j'oublie, les sculpteurs avec leurs gros sabots en bois. Voilà, c'était des artistes. Et la musique pour un artiste, même s'il fait des tableaux, c'est important. Et bien sûr, du coup, les fanfares des beaux-arts avaient une sacrée réputation. Mais comment faisaient-ils ? Eh bien, ils jouaient exactement comme on joue de la musique traditionnelle, sans partition, avec les positions, par exemple, pour les trompettistes des pistons, ils les écrivaient sur les murs.
Ah oui, tous les instruments à pistons, hein. Il y avait les partitions, entre guillemets, sous forme de schéma avec la position des trois pistons. C'était absolument génial, je dois dire. Nous avons connu au Beaux-Arts de Paris ce local minuscule situé sous l'escalier du Quai Malaquais et où les musiciens s'entassaient pour répéter. Et alors là, c'était des répétitions spéciales, parce que les fanfares répétaient dans leurs ateliers. Mais là, sous l'escalier, les musiciens de fanfares qui aimaient le jazz et qui voulaient en faire se retrouvaient. C'était des jam sessions de débutants vraiment assez volcaniques. Et tout ça, ça a déteint sur une des fanfares, parce qu'il faut savoir qu'au Beaux-Arts, il n'y a pas la fanfare des Beaux-Arts.
Il n'y avait pas qu'à Paris, il y en avait dans toute la France. Il y avait au moins une trentaine de fanfares qui concouraient chaque année.
Ça se passait au Luxembourg. Sous le kiosque, non, c'était absolument génial. Ah, les années 60, si vous aviez connu ça. Tout ça, maintenant, c'est fini, ça n'existe plus, ça a été labouré et ravagé par le conformisme, mais nous avons vécu de grandes époques. Mon grand âge me fait revendiquer le droit à la nostalgie, s'il vous plaît.
Oui.
Et là, nous allons prendre un sacré coup de jeune, puisque nous nous retrouvons avec la fanfare la plus jazz de l'école de Paris, qui était celle qui s'appelait Bonaparte Visconti.
C'est même à se demander s'ils n'étaient pas plus musiciens qu'architectes, mais tant pis.
La question ne sera pas posée. Là, cette fanfare-là s'est emparée d'un morceau de Louis Russell qui s'appelle Suite Mumtaz. Et vous allez voir ce qu'ils en ont fait. Ça se passe justement à l'occasion d'un concours de fanfare. Et le trompettiste, alors là, il y avait un sacré trompettiste qui s'appelle Daniel Torel. S'il nous écoute, on lui fait de grosses bises, d'autant plus que Daniel Torel, ça a été mon voisin de pépite pendant 4 ans dans un big band. C'est une chose qui ne s'oublie pas. Ce qui est curieux, c'est qu'il n'était pas des Beaux-Arts, Daniel, il était à l'école Boulle. Tu vois que déjà, on commençait à recruter en périphérie.
Pour ceux qui ne connaissent pas l'école Boulle, c'est une sacrée école d'ébénisterie.
Et de décoration, et de création.
Oui, bien sûr.
C'est une école de très haut niveau. Sacré Daniel.
Thank you.
je te ferai remarquer que dans la fanfare que nous venons d'entendre, ils étaient à deux trompettes. Et ça continue. Nous sommes maintenant aux années 60 et nous allons poursuivre avec deux orchestres emblématiques de cette période. Toujours en France, hein, et dont le quartier général, pour l'un comme pour l'autre, était d'ailleurs le fameux caveau de la montagne, qui était rue de la montagne de Sainte-Geneviève, et qui était tenu par un redoutable cerbère et propriétaire qui s'appelait Madame Loyer.
À cette époque, les choses deviennent un peu différentes. On commence à avoir des rééditions. Le micro-sillon existe, ça facilite bien les choses. Et les musiciens, ils écoutent, mais ils ne vont pas refaire exactement comme c'est. C'est-à-dire qu'ils vont s'approprier cette musique pour la jouer un peu aussi à leur manière. Et ça, c'est très intéressant parce que le jazz est devenu, alors qu'il était proprement américain, il devient aussi jazz français.
Et c'est très curieux de voir toute une catégorie de gens qui avaient appris d'oreille se mettre à apprendre aussi le solfège comme pense-bête. Parce qu'il y a des morceaux qu'on retranscrit. Hein. Comme on a les disques sous la main, on peut travailler dessus. On retranscrit, on adapte, on arrange. Et tu as bien raison de dire qu'on n'est plus dans les années 20 à reconstituer parce que, naturellement, toute forme d'art créatif est liée à l'ère du temps de son époque. Et on ne sait même pas comment fonctionnaient les gens des années 20 dans leur tête. Hein. Là, on est dans les années 60, et voilà. Néanmoins, ça n'empêche pas les références. Et voici un morceau qui s'appelle
Miss Hannah.
Dans la version originale.
Eh bien, c'est les McKinney's Cotton Pickers qui l'ont joué, créé.
Selon un arrangement de leur directeur musical et saxophoniste alto qui s'appelait Don Redman.
Et là, c'est un orchestre qui a un drôle de nom. Un orchestre français, bien sûr. Jazz aux Maniacs.
Ben, ils n'ont pas trouvé ça tout seuls, figure-toi. Ils ont repris le nom d'un orchestre qui les a beaucoup inspirés, un orchestre de Saint-Louis, dont le chef était Charlie Chris. Et cet orchestre-là s'appelait les Jazzomaniacs. Ils ont pris le nom, donc, et nous sommes toujours avec un tandem de trompettes. Là, cette fois-ci, c'est Dan Vernet et Michel Devilliers, avec tout un tas de gens qu'on a bien connus et qui ont tous fait leur parcours dans le jazz, soit en amateur, soit en professionnel. Mais tu sais, j'entendais hier un peintre très connu dire que dans toutes les formes d'art, il y a des amateurs et des professionnels et que de toute façon, les bons amateurs ou les très bons sont meilleurs que les médiocres professionnels. C'est-à-dire que dans le jazz, qui est une musique très libre, ça se mélange facilement. La version de Miss Hannah par les Jazzomaniacs que vous allez entendre a été enregistrée en public lors d'un festival assez volcanique qui s'est passé à Hambourg et où l'invité d'honneur de l'orchestre, qu'on va entendre abondamment, était Albert Nicolas, un des plus grands clarinettistes de la Nouvelle-Orléans. C'était vraiment un personnage historique. Et je sais qu'ils ont un peu fait équipe ensemble, les Jazzomaniacs et Albert Nicolas, parce qu'il aimait beaucoup cet orchestre.
Fortunate with bows. Everybody knows Miss Hannah I'm speaking of. Does she have a frown? Say no, she's a talk of all the town. Men all gather round Miss Hannah. Now is she lovely? Boy, I mean, all other girls in town go unseen. Does she have a style? Boy, what a smile. Men would walk a mile for Hannah.
Thank you.
Pour nous, les meilleurs orchestres de cette époque-là, dans ce style, c'était les orchestres à gros sons, avec en particulier un tuba. Alors là, on rejoint toute une tradition des premiers big bands qui avaient effectivement un tuba comme contrebasse, ce qui arrondit et épaissit considérablement le son d'un orchestre, surtout d'un orchestre un peu nombreux, car avec l'orchestre qui suit, qui est l'orchestre du fameux Charquet, le révérend Charquet et sa congrégation, on va de nouveau avoir un orchestre à deux trompettes avec des cuivres puissants et donc la présence d'un tuba. La référence de ce genre d'orchestre, évidemment, c'est Fletcher Anderson. Mais là, ils vont se référer à l'orchestre de la Nouvelle-Orléans.
Cet orchestre, il a un nom un peu amusant. Il s'appelle Papa Célestin Tuxedo Jazz Band.
Tu sais ce que c'est qu'un tuxedo ?
Quand on se met beau, vous savez, on met un smoking. Eh bien, un tuxedo, c'est le nom du smoking. Oh, on est sur son 31.
Ah oui. Et même son 32, avec les revers luisants. C'est quand même amusant de voir un mot anglais être dans le français comme smoking et un mot pas du tout anglais être là-bas comme tuxedo. C'est un des gags linguistiques qu'on rencontre comme ça de temps en temps. Oscar Célestin, surnommé Papa, parce qu'il était extrêmement gentil, protecteur et exigeant.
Ce qui vous prouve d'ailleurs qu'on disait pas daddy, hein, on disait papa, comme en français.
Tout à fait. 2 ou 3 ans avant ce que vous allez entendre, et qui s'appelle Original Tuxedo Rag. C'est l'orchestre où le jeune Louis Armstrong a fait ses débuts avant le fameux télégramme qui
lui a dit « Vite, vite, je t'attends à Chicago, signé King Oliver ». Oh là là, vite on y court.
Ah, le télégramme en question est resté légendaire, mais il ne faut pas oublier que ce cher Armstrong, il sortait de l'orchestre que vous allez entendre en premier, et après vous allez voir que l'orchestre de Charquet en a fait un très bon usage. Ces jeunes gens de l'orchestre de Charquet, eh ben, ils ont fait leur chemin pour la plupart, puisque, outre Jean-Pierre Morel, dit Charquet, le chef d'orchestre, il y a Emmanuel Husneau, comme deuxième trompette, il y a Alain Marquet, clarinettiste, qui venait d'avoir le prix Sidney Bechet, s'il vous plaît.
Quand même.
Il y a Daniel Luc, alors qui est très très connu, c'est le meilleur scatteur de France, et d'ailleurs un très très bon saxophoniste alto. Et puis il faut bien le dire, c'était un orchestre très spécial, où les humeurs, les coups de gueule, les conflits, les réconciliations...
Bref, volcanique.
C'est à peu près ça. Ils disaient de leur propre orchestre qu'ils étaient en état permanent de dissolution.
Et ça continuait quand même.
Thank you.
C'était La Planèse du Jazz.
À la planète prochaine.